Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Que faire pour être performant dans son travail? Un milieu professionnel, comme je le disais tout à l'heure, certains employés passent 8 heures au travail sans réellement accomplir 8 heures de travail. Au finish, le résultat est loin de répondre aux attentes de l'employeur. Or, l'entreprise a besoin des agents productifs capables de contribuer au développement de la structure. Alors, pour donner le meilleur de soi, être au top de sa performance, certaines conditions doivent être réunies. Alors, quelles sont ces conditions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être au top de sa performance? David Pataille, psychologue du travail. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jolie.
Alors, monsieur David, quand on parle de l'efficacité dans son travail ou la performance dans le travail, qu'est-ce que cela veut dire?
C'est bien, avant d'aller dans les détails, il est mieux de pouvoir circonscrire ce qu'on entend par performance. C'est simplement le niveau atteint dans la réalisation d'une tâche ou d'une obligation donnée. Alors, ce niveau peut être soit atteint par rapport au critérium, oui, par rapport à ce que l'on attend, ou soit peut être en deçà. Ou ça peut également être au-delà.
Okay.
Et quand c'est au-delà, on dit vous avez réalisé une très grande performance. Et quand c'est juste, vous avez réalisé ce qu'on vous a demandé simplement sans faire effectivement d'extraordinaire, oui, on dit que vous avez été performant, et si vous êtes en deçà, vous êtes moins performant. Et là, toutes les conséquences peuvent être tirées.
Voilà. Et qu'est-ce qui fait que certains employés ne sont pas performants dans leur travail?
Ok, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir à la performance. Ça peut soit lorsqu'ils sont pris en compte augmenter la performance, ou soit lorsqu'ils sont négligés, diminuer les niveaux de performance. Par exemple, la connaissance de son travail ou de son job description fait partie des facteurs qui déterminent les niveaux de performance. Quelqu'un qui maîtrise et qui sait ce que l'on attend de lui, n'est-ce pas? Il se prépare pour donner le meilleur de lui-même. Si on s'ignore, c'est que, et qu'on ne sait pas sa position et ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous la réalisation d'un bon nombre de tâches, d'un bon nombre d'activités qu'il faut réaliser. Et lorsque ces activités ne sont pas réalisées, eh bien, vous n'êtes pas performant. Il y a 3 critères qui peuvent, n'est-ce pas, vous permettre de pouvoir juger votre degré de performance. Il y a l'exactitude, c'est-à-dire ce que l'on vous demande tel que demandé, c'est exactement tel que vous le faites. Par exemple, on vous demande de saisir, vous êtes secrétaire, on vous demande de saisir 5 lettres par jour. De saisir 5 lettres par jour. L'exactitude, c'est que vous devrez saisir ces 5 lettres de façon parfaite, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs ou de fautes d'orthographe. L'exhaustivité comme deuxième critère demande à ce que vous puissiez faire les 5 lettres comme demandé, parce qu'il se pourrait que vous ne réalisez que 4 lettres ou 3 lettres. Donc l'exhaustivité ici exige à ce que vous puissiez exactement reproduire les 5 lettres telles qu'exigées. Et également un autre critère, la souplesse ou la rapidité avec lesquels vous êtes en train de faire votre travail. Ces critères sont déterminants et doivent, n'est-ce pas, conditionner le travail de tout un chacun de nous.
Pouvez-vous les reprendre, les 3 critères?
Les 3 critères, nous avons parlé de l'exactitude,
oui,
de l'exhaustivité, ainsi que de la souplesse ou de la rapidité.
Voilà, d'après certains, les travailleurs ont besoin également, un travailleur pour être performant dans son travail a besoin de sentir la confiance des autres. Quand on lui fait confiance, à ce moment-là, il peut devenir performant.
Effectivement, donc nous parlions des facteurs, et ça sont des critères, ce qu'on vient de citer, l'exhaustivité, l'exactitude, ainsi que la souplesse ou la rapidité. Mais parmi les facteurs, comme nous avons dit, il y a la connaissance du travail, de ce qu'on est censé de faire. Cette connaissance relève de notre job description. Mais aussi, il y a l'environnement dans lequel vous travaillez. Mais ça, ce sont des facteurs externes. La question telle que posée relève des facteurs internes de l'individu, parce qu'on s'est dit comment améliorer sa performance. Peut-être qu'on pourra en parler prochainement, si vous le voudriez, de facteurs de l'environnement. Là, on touche maintenant certains facteurs qui ne dépendent pas de l'employé, mais qui dépendent de l'employeur, n'est-ce pas? Ces conditions sont des facteurs externes.
Mais certains disent que pour donner le meilleur de soi, il faut se retrouver devant des défis. Vous avez des challenges. C'est à ce moment-là que la personne peut déployer tout son potentiel pour être performant.
Effectivement, pourquoi on doit être performant? Parce qu'on doit atteindre le résultat. Et si on doit atteindre le résultat, c'est que nous sommes par là motivés et qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se mettre dans une situation d'émulation. Vous êtes en train, vous vous mettez en compétition avec les autres, pas en termes de concurrence, mais de façon que vous puissiez vous surpasser et donner le meilleur de vous-même.
Là, c'est l'entrepreneur qui doit créer cette compétition.
Bon, ça, c'est pas forcément, mais l'employé doit prendre son initiative. C'est ainsi que je dis, il y a des facteurs externes qui ne dépendent pas de lui, qui dépendent de l'employeur. On en parlera effectivement ou tantôt. Mais d'abord, lui-même, l'employé, est censé se mettre dans une situation de compétitivité. Et aussi d'autres facteurs. Par exemple, il faut tenir à ce que vous puissiez avoir une bonne planification du travail. Vous avez parlé ici, tantôt tout au début, qu'il y a 8 heures du travail, mais on ne réalise pas ce qu'on nous demande pendant les 8 heures du travail. Ou carrément, les 8 heures du travail ne nous ont servi à rien durant la journée. Mais parce que simplement, il y a une mauvaise organisation et une mauvaise planification. Tout employé est censé, n'est-ce pas, à la veille, n'est-ce pas? À la veille, pouvoir faire la programmation des tâches qu'il doit censé réaliser demain. En termes de timing, en termes de la durée. Et quand vous arrivez demain au bureau le matin, vous êtes censé vous rappeler de ce que vous aviez élaboré comme planning des activités. Comme ça, vous avez une vision claire de ce que vous devez réaliser cette journée-là. Ainsi, si ceci est bien fait, donc vous allez travailler 8 heures sur 8.
Alors ceux qui passent le temps devant Facebook, ils planifient pas bien leur travail.
Bon, cela dépend, mais quand est-ce que vous faites le Facebook? Parce qu'il y a des gens qui en commencent dès le matin, comme la première activité, ou carrément vous manquez à faire.
Oui.
Parce que...
Il y a même dans certains bureaux, à l'administration publique, vous trouvez à la réception 5 dames, 6 dames. Bon, elles n'ont pas beaucoup de travail, elles passent du temps à jouer aux cartes et aux Zoom elles sont sur Facebook.
Ah, ça c'est un problème d'organisation du travail. C'est que le travail n'est pas bien organisé ou il manque à faire. Et comme il manque à faire, il faut carrément planifier le travail à ce que réduit par exemple l'effectif. Puisque s'il y a des gens qui n'ont rien à faire, c'est un travail qui pouvait être réalisé soit par une seule personne.
Oui.
Alors, dans ce cas, il faut prendre des décisions utiles.
Voilà, il faut prendre des décisions. Que faire pour être performant dans son travail? Nous avons déjà 3 auditeurs en ligne. Les sujets vous intéressent, composez les 0-81-890-63-94.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot. Chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Que faire pour être performant dans son travail? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui dans Okapi Service. Edgar Lukamba nous appelle de Kananga. Crispin Kindoku est à Kisangani et Malonga Bandundouville. On commence avec Edgar. Bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai des préoccupations. La première est la performance, telle que définie par l'invité comme étant l'atteinte des objectifs, est-elle différente de la compétence? Et les deux sont-elles liées à la production? Ma deuxième préoccupation, on voit que malgré les progrès de la technologie et la tendance de plus en plus poussée à l'automatisme, l'homme occupe encore une place de choix dans l'entreprise et dans la production. D'où la santé robuste des travailleurs est un facteur important de la productivité. Et dans le même ordre d'idée, je dis que l'arrêté du 3 octobre 1967 détermine les modalités d'examen médical d'aptitude physique à l'embauche, sanctionné par un certificat médical d'aptitude. Alors, ma question ou ma préoccupation, pourquoi aujourd'hui, dans les offres d'emploi que nous suivons même à la radio Capi, on ne parle plus du certificat médical d'aptitude physique comme faisant partie des éléments du dossier, si réellement on veut que les 8 heures de travail soient vraiment productives? Est-ce que cet arrêté a été, je ne sais pas moi, abrogé ou quoi? Donc, il faut vraiment agir en amont pour avoir une bonne production en aval et donc adapter le travail à l'homme et chaque homme à sa tâche. Voilà ma contribution. Je dis merci beaucoup.
Merci Edgar de Kananga. Crispin, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Monsieur le journaliste, bonjour à la vérité.
Quelle est votre question? Bonjour. Allez-y rapidement, Crispin. Quelle est la question?
Oui, merci. Concernant à entendre l'invité, il semble qu'il veut séparer les paramètres liés à la personne elle-même et à des conditions en fait de l'entreprise. Moi, je demande s'il peut séparer ces paramètres pour la performance bien ensemble. Parce que je vois.
Crispin, la communication n'est pas très bonne, on n'arrive pas à vous capter très très bien. Veuillez vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça peut s'améliorer. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir Malonga de Bandoudouville. Malonga, bonjour.
Bonjour, monsieur Sébastien.
On vous écoute.
Ok, merci. En tout cas, j'ai bien suivi notre invité qui a bien très bien expliqué cette qualification de la performance. Pour moi, je veux dire que est-ce que la performance, on peut l'acquérir dans une formation ou bien on peut être né seulement performancier ou bien de quelle façon on peut devenir vraiment
performant dans son travail.
Voilà.
Bien. Ce que je veux dire. Merci. Crispin, vous êtes à Kisangani. Maintenant, vous avez changé de position. J'espère que ça va. On vous écoute.
Oui, j'ai changé la position.
D'accord. Quelle est votre question rapidement?
Ok, je voulais demander à l'invité s'il peut séparer les paramètres de la personne elle-même et les conditions requises qui doivent en fait être données par l'entreprise. Parce que moi, je crois que ces deux paramètres liés à la personne elle-même et quoi ne peuvent pas être séparés pour que l'agent soit dans des conditions de performance.
D'accord.
Si on peut voir par exemple.
Oui, un exemple rapidement, allez-y.
Oui, je disais, si on peut voir par exemple une condition sociale et aussi la suivi dans les services, parce que vous savez, c'est qu'on connaît que dans les services de l'État, il n'y a pas de suivi, c'est ce qui fait qu'il y a aussi ces désagréments. En fait, au lieu de travailler 8 heures de temps, des fois on passe que 2 heures. Pourquoi il n'y a aucune suivi? Et c'est ce que je voulais demander à l'invité.
Merci bien.
On peut séparer les deux paramètres.
D'accord, merci. David Patard.
Ok, merci beaucoup. Par rapport à la première question qui nous a été posée par M. Edgar.
Oui, la différence entre la performance et la compétence.
Mais la différence est nette.
C'est laquelle?
La performance, la compétence, c'est une habileté naturelle. Ou que l'individu a développé soit en fonction de l'environnement où il a travaillé ou des conditions dans lesquelles il a été soumis.
Oui.
Ça, c'est une qualité de l'individu. Par contre, la performance, est jugée par rapport au standard, par rapport à la norme, par rapport au travail que vous êtes en train de réaliser.
Par rapport aux résultats attendus.
Par rapport aux résultats qu'on attend de vous.
Oui.
Donc, la compétence est au service de la performance.
Voilà. Et alors, il dit également, il y a aussi un autre critère, l'aptitude physique. Il dit aujourd'hui, dans la plupart des offres d'emploi, on ne demande plus les certificats d'aptitude physique. D'aptitude physique, d'après lui, c'est un élément important pour être robuste, pour être performant dans son travail.
Ok. Effectivement, j'ai compris son souci. Il soulève la robustesse comme une condition, n'est-ce pas? Mais tous les travaux ne demandent pas la robustesse.
Être en bonne santé.
Bon, ok, si on prend l'option d'être en bonne santé, ça c'est une condition idéale. C'est ce qui est souhaité par tout le monde.
Oui.
Mais cela dépend également du type d'emploi. Par exemple, quelqu'un qui est atteint de VIH-SIDA, il est malade, n'est-ce pas? Mais il se comporte bien. Est-ce qu'il n'a pas droit au travail? Et cela dépend de la nature du travail que vous êtes en train de réaliser. Par exemple, pour un travail qui demande à ce que vous puissiez travailler là où il fait frais ou froid. Par exemple, dans les chambres froides, on n'a pas besoin des gens de petite taille. On a des gens qui sont robustes, de nature physique, extravagante. Pourquoi? Parce que physiologiquement, ils sont prédisposés chez gens qui ont beaucoup de graisse
à supporter le froid.
Oui. Mais les gens de minces ne peuvent pas parce que leur nature physique ne leur permet pas. Donc, si vous devez prendre en compte la robustesse, vous fauchez dès le départ l'analyse.
Voilà. Et Crispin de Kisangani qui dit si vous pouvez faire la différence entre la personne elle-même et les conditions de travail, l'environnement pour atteindre la performance.
Ok. Donc, rapidement. Vous le savez, il y a l'individu et il y a l'environnement. Quand je parle de l'environnement, je parle de l'entreprise. L'individu a des compétences, il a des habiletés, il a son intelligence, il a des connaissances qu'il met au service pour faire avancer son travail. Il doit aussi être motivé et il a sa personnalité, mais il travaille dans un environnement précis, dans un contexte bien précis. Ce contexte a une ambiance psychosociale ou même l'ambiance physique. Par exemple, les outils de travail font partie de l'environnement. Par exemple, la manière il est géré, le leadership, la manière il est en train de subir, n'est-ce pas, la pression de la hiérarchie pour qu'il puisse, n'est-ce pas, bien faire son travail. Mais ces facteurs extrinsèques sont définis par l'employeur. C'est l'employeur qui définit ces conditions, de telle sorte que l'agent ou l'employé puisse travailler dans de bonnes conditions. Mais d'un autre côté, l'employé, lui aussi, est soumis, n'est-ce pas, à cet exercice de se faire d'être performant au travail. Donc, maintenant, la question, faudra-t-il séparer les deux? On ne peut pas séparer les deux, mais c'est question maintenant de savoir, la question est posée, comment améliorer sa propre performance.
Alors, donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que si le travailleur est bien payé et il a des primes à chaque moment, donc il donnera les meilleurs de lui-même?
Ce n'est qu'un facteur. D'ailleurs, les études ont démontré que quand on est bien payé, on risque de ne pas aussi être performant. Parce que ce n'est pas l'unique critère qui rend des gens performants. Il y a d'autres critères, par exemple l'ambiance dans laquelle on travaille. Vous savez, par exemple, j'ai été dans une des provinces de notre pays où la majorité que des gens j'ai recevé dans les interviews me disaient que j'ai déjà quitté là où j'ai travaillé. J'ai dit, mais oui, mais vous étiez bien payé. On vous payait combien? Autant. Au 1000 dollars et quelques. Mais pourquoi vous avez quitté? Il dit, non, l'ambiance n'était pas bonne. Donc, le monsieur a quitté parce que l'ambiance n'était pas bonne, mais il était bien payé. Donc, il y a plusieurs autres facteurs qui interviennent et qui rendent performant un employé.
D'accord. Alors, Malonga dit, est-ce qu'on peut acquérir la performance ou c'est inné? Est-ce que c'est inné ou bien on peut l'acquérir?
Oui, ça se rattache à la première question d'Edgar.
D'Edgar,
oui. Oui, oui, oui. On doit faire la part des choses. La compétence est une qualité de l'individu qui lui permet, par rapport à un défi, par rapport à un niveau de réalisation, au résultat attendu, d'être performant. Donc, la performance, c'est une norme. On vous juge par rapport à la norme. Ce qui est acquis ou inné, c'est la compétence. La compétence est acquise, mais cette compétence, c'est une transformation des habiletés que vous avez, de certaines prédispositions que vous avez par rapport à l'environnement où vous avez évolué, les études et consorts. Et une fois que vous avez été forgé par l'environnement d'être compétent, c'est lorsqu'on vous fixe une norme, vous devenez performant. Donc la performance, c'est un niveau de réalisation qu'on attend de vous.
D'accord. Patient Paul nous appelle de Kinshasa et Adrienne de Lubumbashi, vous voulez également participer, faites le 081-890-6394.
C'est parce que Radio Kapi Uné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Que faire pour être performant dans son travail? Patient Paul, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour donc.
On vous écoute.
Oui, je dis donc bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
J'aimerais savoir donc quel conseil peux-tu donner si je prends le cas des fonctionnaires de l'État.
Oui.
Oui. Trop souvent, ils se plaignent de... Ils se plaignent donc d'amélioration de leur barème salarial. Mais allez voir dans le bureau, presque c'est vide. Et certaines se retrouvent donc dans des petits restos, des cafés donc maléwa, mais ne réalisent pas dans ces heures exigées. Et certaines donc respectent leur rendez-vous, même à 2-3 km, mais à l'heure de, à l'heure prévue donc pour qu'ils soient donc au service,
ils sont pas là.
Tout, quoi.
Oui.
Voilà, merci beaucoup.
Bien, merci, patient. Adrienne de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à monsieur David Pada.
Bonjour, Adrienne.
Oh. Ok, moi j'aimerais d'abord savoir quelles sont les meilleures stratégies qu'un travailleur pourra appliquer pour être performant dans son travail. Et la deuxième est de savoir, monsieur David,
oui.
Dans une entreprise où un travailleur n'est pas performant, j'aimerais savoir si ce dernier peut être licencié. Qu'est-ce une entreprise réserve pour ce genre de personnes, donc les personnes qui ne sont pas performantes. Merci.
Bien. Pichu Chimanga de Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir aussi. Parce que moi, je trouve que souvent, ce qui arrive aux travailleurs, c'est les problèmes des employeurs. Parce qu'il y a d'abord les problèmes des salaires. Or, les salaires devaient être égaux au travail. Parce que vous trouverez, remarquerez, il y a beaucoup d'employeurs qui n'arrivent même pas à recycler les travailleurs. Or, ce qu'il faut retenir, il y a aussi le problème des recrutements. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent les gens sans tenir compte des critères des recrutements. Or, pour moi, maintenant, à mon niveau, je voulais poser la question. Quelle est réellement la meilleure condition pour recruter les travailleurs dans une entreprise?
D'accord. Merci, Pichu. David Pata.
Merci beaucoup. Nous allons commencer avec la question des patients. Quel conseil à donner aux fonctionnaires de l'État?
Qui ne sont pas à leur lieu de travail, ils sont ailleurs.
Effectivement, c'est ce qui importe, comme nous avons dit, l'employé fixe des conditions de travail. L'employé doit prendre conscience aussi de ce qu'on attend de lui. C'est simplement nos amis... fonctionnaires de l'État doivent prendre conscience de ce qu'on attend d'eux.
Est-ce qu'ils ne sont pas démotivés parce qu'ils ont un maigre salaire?
Mais évidemment, mais ils sont payés. Et c'est pour ça qu'ils ne démissionnent pas. Sinon, ils auraient dû démissionner, laisser la place aux jeunes gens qui, pendant longtemps, cherchent cet emploi.
Oui.
Mais effectivement, ils sont démotivés. Il y a plusieurs facteurs. La situation demande une approche systémique. Mais... on ne doit pas aborder tous les aspects au même moment. Ce qui nous intéresse, on voit l'aspect individu, l'employé lui-même. Ça va? Donc, ne touchons pas d'autres
les
aspects.
Les autres aspects, ok.
On laisse constant les autres. Mm-hmm. On fait varier. Nous allons analyser maintenant cette unique variable pour pouvoir effectivement cerner l'essentiel. Ce qu'ils doivent faire, simplement, ils doivent se faire performants. Parce que les jours où ils vont décider de quitter, c'est que quand ils vont aller ailleurs, les gens vont sentir qu'ils n'ont pas la compétence pour faire notre travail. Mmh. Et ils auront du mal à faire la reconversion professionnelle. Parce que ce que les gens oublient, c'est que les gens ne sont pas condamnés à rester dans un domaine. On peut à un moment donné...
À faire carrière à la fonction publique.
Ce n'est pas une loi établie. Ce n'est pas une loi divine.
Mmh.
L'employé peut à un moment donné décider d'orienter autrement sa vie professionnelle. Mais si vous êtes donné une mauvaise habitude de ne pas atteindre les résultats, d'abandonner votre poste de travail,
de venir signer la liste de présence et de
effectivement,
partir.
Effectivement, vous vous donnez une mauvaise habitude et les jours où vous allez décider d'améliorer votre condition de travail, de quitter votre employé pour solliciter un autre employeur, c'est là où effectivement que vous allez vous rendre compte que vous ne valez rien et donc vous avez perdu inutilement votre temps. Et
d'accord.
C'est ainsi que vous remarquerez que les fonctionnaires de l'État ont du mal, n'est-ce pas, à évoluer dans d'autres secteurs. Parce qu'ils se sont donné une mauvaise habitude de ne pas atteindre les résultats.
Voilà. Et Adrien dit, est-ce qu'un travailleur qui n'a pas atteint les résultats, qui n'est pas performant, est-ce qu'on peut le licencier?
Mais pourquoi on doit le garder? Parce que, comme vous le savez, vous êtes engagé pour faire avancer l'entreprise. L'entreprise doit maximiser des recettes à partir des efforts que vous réalisez. Donc, si vos efforts ne permettent pas à l'entreprise d'atteindre le résultat escompté, de maximiser les recettes, ce que vous constituez un goulot d'étranglement pour l'entreprise. L'entreprise doit chercher quelqu'un de compétent.
Mais si c'est la copine du boss ou le cousin ou le petit frère du boss.
Mais on a des cas, les cas sont légion, vous le savez. Beaucoup d'entreprises, surtout des entreprises de l'État, sont sombrées dans les vides à cause des népotismes. Il faut qu'il y ait la rigueur. Celui qui travaille mérite. Celui qui ne travaille pas, et il y a même une théorie, on appelle ça la théorie des attentes. C'est-à-dire que, inconsciemment, les gens, lorsqu'ils sont rémunérés, ils se regardent et ils se voient. Ils se disent, moi j'ai eu autant et j'ai fourni beaucoup d'efforts, mais qu'est-ce que l'autre a fait? Non, qu'est-ce qu'il a réussi, puisque je sais qu'il n'a pas travaillé. Et s'ils constatent qu'ils sont payés dans les mêmes conditions, sur le même salaire, alors ça crée une démotivation.
C'est ça.
Parce que, simplement, on ne se sent pas valorisé.
D'accord.
Donc, il y avait une autre question.
Bien sûr. On va y revenir. Le temps d'accueillir Théophile de Kindou. Bonjour Théophile.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Bonjour. Quelle est votre question?
Oui, j'ai trois petites questions, excusez-moi.
Oui.
La première, je veux dire ceci. Pour atteindre la performance entre l'employeur et l'employé, qui doit plus fournir d'efforts au sein de l'organisation?
Oui.
La deuxième question, le travail étant une œuvre humaine avec ses limites, peut-on prétendre atteindre la performance au sens du terme?
Oui.
Et puis la troisième question et la dernière, un travailleur qui recevait des remarques, disons par exemple 15 remarques par rapport, et après quelques jours commence à obtenir 5 remarques sur le même rapport, est-ce que cela peut se dire qu'il a évolué, qu'il est performant? Merci.
Bien, merci. David Pata, revenons à Adrien qui a parlé des meilleures stratégies pour être performant.
Ok, la meilleure stratégie pour être performant, c'est qu'il faut une bonne connaissance de votre job description, une bonne organisation et planification du travail.
Oui.
Cette planification se fait à la veille du travail, donc à la fin de la journée, vous planifiez les activités auxquelles on attend de vous pour demain.
Okay.
Et à la fin de la semaine, vous faites l'inventaire de ce que vous avez réalisé toute la semaine et vous faites la projection sous forme d'une planification des activités auxquelles on attend de vous pour la semaine prochaine. Et chaque fois, veillez à vérifier ce que on vous a demandé, si également c'est ce que vous avez réalisé dans la pratique. Ce sont là les deux astuces qui peuvent vous permettre d'être performant, en dehors effectivement d'autres facteurs intrinsèques.
Voilà, Pichou nous dit que des Kisangani pour être performant, cela dépend aussi lors du recrutement. Si l'entreprise a recruté des bois morts, alors on n'aura pas des gens performants. Alors il dit que comment on doit se faire, quelles sont les meilleures conditions pour bien recruter les agents?
Effectivement, mais les meilleures conditions, c'est l'objectivité et l'impartialité. Parce que si...
Il ne faut pas favoriser les cousins.
Non, il ne faut pas favoriser, éviter les népotismes, éviter les clientélismes.
Oui.
Et ce sont des mots qui rongent la plupart de nos entreprises. Mais heureusement, beaucoup d'entre elles ont pris conscience. Et effectivement, on constate que chaque jour, il y a des recrutements qui se font par-ci, par-là.
Oui. Alors, Théophile de Kindou nous dit, entre l'employeur et l'employé, qui doit fournir beaucoup plus d'efforts pour être performant?
Les deux.
Voilà. Et il dit encore, peut-on prétendre atteindre la performance, étant donné que le travail humain a toujours des failles, d'après lui?
Non, mais on ne vous demande pas la perfection, mais ce sont des critères. On vous demande de saisir 5 lettres. Pourquoi on ne doit pas atteindre 5? Mais en fait, le travail qu'on nous demande, ce sont, en fait, relève des activités que nous réalisons tous les jours.
C'est ça.
N'est-ce pas? Si, par exemple, pour un chargé de recrutement, on vous soumet 10 postes à recruter, pourquoi vous n'allez pas recruter les 10 candidats, les 10 bons profils? Si vous ne parvenez pas à atteindre 10, vous ne parvenez qu'à atteindre 2, vous êtes moins performant, puisqu'il y a déjà des gens qui le font.
Alors, on doit vous faire partir. Hein?
Effectivement.
Et on termine par Théophile qui dit, si par exemple, on vous faisait 15 remarques par votre employeur par jour parce que vous avez mal fait le travail, et puis vous constatez au fil des jours, il ne fait plus assez de remarques, maintenant c'est 5 remarques. Donc, il dit, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'on a atteint la performance?
Et attention, la performance est atteinte en fonction des résultats qu'on attend de vous. Les autres, ce sont des aspects externes.
Externes, oui.
Ok. Donc, on parle de la performance puisque vous avez une liste des activités que vous êtes censé réaliser ou des résultats que vous devez atteindre.
Okay.
Donc, une fois que vous les réalisez, on dit que vous êtes performant. Si vous ne parvenez pas, vous n'êtes pas performant. Simplement.
Alors, si vous dépassez, si vous dépassez ce qu'on attend de vous,
oui.
Là, à ce moment-là, vous devenez quoi?
Oui. Par exemple, si votre travail est de ne pas produire de fautes,
oui.
On attendra à ce que vous puissiez moins de fautes.
C'est ça.
Oui. Dans ces cas, nombre de fautes constitue les critères de performance.
D'accord. David Fata, merci. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jolie Kachama.